Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé dans une poignée de secondes. Nous allons accueillir Fanny Riette-Berger, qui est la co-créatrice de la série Les Randonneuses, qui sera diffusée ce soir sur TF1. On aura également le plaisir de passer en revue nos coups de cœur télé de la semaine, évidemment, avec Disparition inquiétante, qui sera diffusée mercredi sur France 2, nouvel opus, avec Youssef Hadji, qui sera notamment notre invité, réalisé par Stéphanie Pilonka, qui sera également là. On aura le plaisir de recevoir Juliette Trezanini, également, pour cet épisode. Jérémy Banster sera également notre invité exceptionnel pour parler des secrets du Finistère qui sera diffusé samedi sur France 3. Et puis on continuera à parler aussi de Tropique Criminel qui revient pour une saison 4 inédite. Les deux héroïnes, Béatrice de la Boulay et Sonia Roland, seront là. Et puis en fin d'émission, on va parler également du grand spectacle Star 80 qui sera diffusé sur France 2 samedi soir. Jean-Philippe Lemonnier, le metteur en scène du spectacle, et Phil Barnet, une figure incontournable des années 80, seront en ligne avec nous pour en parler. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui. Ensuite, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé ce soir s'appelle Les Randonneuses, qui va démarrer sur TF1 en ce 15 mai. On va avoir le bonheur de découvrir la deuxième série de l'année pour Fanny Riette-Berger qui est avec nous. Bonjour Fanny, merci d'être là.
Je vous en prie, avec plaisir.
Alors, c'est votre année, hein. Après Toulouse-Lautrec, vous êtes en train d'élire domicile dans Chut, on écoute la télé depuis janvier, et c'est pour notre plus grand plaisir parce que c'est deux fictions entre Toulouse-Lautrec et là Les Randonneuses qu'on découvre. C'est vraiment des fictions humaines avec des histoires fortes que vous nous proposez là encore avec Les Randonneuses, hein, ce soir.
Bah, j'essaye, ouais, absolument. Bah, toujours mes thématiques sociétales que j'aime beaucoup avec cette fameuse tonalité qui est la dramédie. Qui me tient très à cœur pour traiter de sujets entre guillemets graves mais importants.
Alors vous avez donc créé cette série Randonneuse, vous l'avez co-scénarisée aussi, un énorme travail avec des paysages absolument merveilleux. Mais pour planter un peu le décor, c'est quoi Les Randonneuses? Expliquez-nous un peu, Fanny.
Les Randonneuses, feu six femmes au sommet, c'était le titre au départ. C'est l'histoire de six femmes que tout oppose, et l'âge et la classe sociale et le caractère qui n'ont rien en commun au demeurant, si ce n'est d'être copines de chimiothérapie et qui décident de se lancer dans ce pari fou de faire une ascension pour aller disperser les cendres d'une amie récemment décédée d'un cancer. Et à travers cette ascension, il y a ce côté catharsique du dépassement de soi, de la rébellion et surtout de la vie. Il y a une narration un peu à la Lost, donc il y a plusieurs intrigues. Il y a une intrigue inhérente à ce qui se passe en In, c'est-à-dire l'ascension pure. La rencontre de ces femmes, parce qu'elles ont l'impression de se connaître, mais c'est comme quand on part avec des copains en vacances d'été, on se rend compte qu'on connaît pas si bien les gens. Donc c'est différents caractères qui vont apprendre à cohabiter, les péripéties propres à la montagne qui sont nombreuses. Je ne dévoile pas tout, mais voilà ce que peut être une ascension et tout ce qu'il y a de compliqué. Et chaque épisode est dédié à l'une d'entre elles, du moins à son intimité. Donc c'est très choral, hein, on les voit en permanence tout ensemble, mais comme dans Lost, on retourne dans des flashbacks
et pour mieux comprendre leur parcours.
Ouais. Exactement, et ça nous permet de traiter, ce qui me tenait très à cœur, de toutes les thématiques qui sont liées à cette maladie, souvent traitée en drame. Là, c'est la dramédie, donc on rit beaucoup. Je dis souvent que c'est vulgairement que ça pue la vie aussi, mais ça raconte aussi ce que le cancer peut engendrer, qui n'est pas juste une personne malade à l'hôpital, c'est aussi des dommages collatéraux assez colossaux et qui touchent aussi à beaucoup de gens autour. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette série. J'ai malheureusement été touchée indirectement par cette maladie assez jeune, parce que j'ai perdu ma mère de ça. Et on parle rarement aussi des dommages autour de nous, ou aussi bien comme le personnage de Noémie, qui est indépendante, avocate indépendante, et qui se retrouve sur le carreau, comme on dit, et qui n'a plus moyen de revenus, et qui, voilà, c'est une longue descente aux enfers. Et voilà, c'est des sujets qui sont rarement traités, parce que la maladie prend justement tellement le pas sur ce qu'on raconte, et en plus c'est tellement tabou que on n'en parle pas beaucoup, donc on parle souvent de la maladie pure, du milieu hospitalier, des médicaments, des difficultés par rapport à tout ça, mais pas non plus tout ce qui se passe autour. Et ça nous permettait d'avoir ce spectre large de traiter de tout ce qui pouvait
découler de la maladie.
Exactement.
Alors les deux premiers épisodes qu'on va voir ce soir, le premier va s'intéresser vraiment aux dégâts que peut faire la maladie dans un couple et les soubresauts que peuvent créer justement la maladie à travers le personnage de Sarah.
Et au-delà de ça, même au-delà de ça, c'est la sexualité, la féminité,
tout à
on
fait.
Va plus loin, c'est
vraiment. Et puis le deuxième avec Clémentine Célarier, qui sera plus à honneur avec le personnage de Noémie. Alors là, on va plus être dans le sociétal et aussi ça met en avant les absurdités aujourd'hui de non mais c'est vrai les absurdités
quelle scène vous faites référence c'est on en rit quoi
au niveau de la banque et tout, mais on se voit tous dans cette situation là de demander effectivement un prêt, et ça met vraiment en avant tout ça. Donc il y a vraiment d'une partie le couple, la sexualité, dans le deuxième vraiment la partie sociétale et comment faire pour que ceux qui sont derrière nous, en l'occurrence son fils Clémentine Sarrier, comment on peut faire. Donc il est vrai que c'est deux thèmes qui sont vraiment habilement maniés, parce que vraiment on est par touche de comédie aussi, toujours là où il faut. C'est ça que j'ai aimé aussi dans l'écriture, Fanny, dans la mise en scène, c'est qu'à un moment on pourrait basculer un peu, voilà, dans quelque chose d'un peu larmoyant. Chaque fois, il y a la petite réplique qui vient nous rattraper, et ça c'est vraiment habilement fait, quoi.
Bah, c'était vraiment la volonté, encore une fois, moi, c'est vraiment une tonalité qui m'est chère, et c'est rien n'empêche de traiter ce genre de sujet en drame. Mais, moi, c'est, traiter ces sujets-là de cette manière-là, parce que déjà, ça permet de pas faire fuir. Moi, l'essentiel, c'est qu'on parle bien, avant tout, et que ça soit regardé. Donc, comment faire entrer aujourd'hui pour que les gens aient envie de venir le voir? Et par ailleurs, c'était aussi très fidèle à ce qui se passait dans la vie. C'est comme Toulouse Lautrec. C'est-à-dire que, penser que les handicapés s'appuient sur leur sort et passer leur journée à pleurer, c'est faux. Qu'ils rient et qu'ils soient très corrosifs, c'est vrai. Et pareil, dans la maladie, comme nous ont dit toutes ces femmes aussi avec lesquelles on a collaboré, l'humour fait partie intégrante de la guérison. C'est une arme de survie. Et voilà, moi, je me suis assez persuadé qu'on peut rire de tout le temps, et que c'est la meilleure des armes. C'est pas des gens qui se plaignent. Donc, en fait, on s'est contenté d'être fidèles.
Le casting est fou, évidemment. Lucien, ouais. Jean-Baptiste, on y retrouve Maxence, Dané Fauvel, mais aussi des humoristes qu'on aime tant, comme Baptiste Le Caplin et Jérémy Crédville aussi. Voilà, il y a un très beau casting masculin autour de toutes ces femmes, et puis les paysages sont absolument sublimes.
Oui, on a été gâtés à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on a c'était cette volonté de faire une ascension, donc on a gagné un décor sublime, néanmoins assez compliqué aussi, parce que tourner en décor extérieur en plein été, le premier jour où on est arrivé, on a eu une tempête, tout était difficilement accessible, on a des comédiennes qui ont vraiment joué le jeu dès le départ et qui se sont retrouvées à je sais pas combien de mètres d'altitude avec une toilette sèche pour 50 personnes sur place. Donc voilà, on était vraiment dans une ascension, ce qui fait un peu la magie de la série aussi. Il y a eu la sororité est arrivée très rapidement et malgré elle, parce qu'elles se sont retrouvées dans des conditions assez particulières. Et c'est vrai qu'on a un casting 5 étoiles, et ça, j'en suis vraiment très heureuse, parce que c'était peut-être le nerf de la guerre de cette série, parce qu'il y avait de plus compliqué à faire, parce que réunir 6 femmes, mères de famille en plein été, c'était presque de l'ordre de l'impossible. Je dois beaucoup à mon premier assistant réel qui a réussi à faire un plan de travail, ce qui paraissait inimaginable. Et par ailleurs, ça joue, mais à tous les niveaux. Je suis très fière de mon casting, féminin comme masculin. Voilà, on joue vraiment très très fort.
Exactement, on va les citer toutes: Alix Poisson, Clémentine Célarier, Joséphine Demeau, Tiphaine Davio, Camille Chamou et Claire Borotra.
Voilà, et Elsa aussi, qui est pas dans l'ascension, mais qui est dans cette urne. Raison pour laquelle elles font cette ascension.
Exactement. Une série où on célèbre la vie. Voilà, c'est deux séries, en tout cas, que ce soit Lycée Toulouse-Lautrec ou Les Randonneuses. Alors, si Lycée Toulouse-Lautrec, on n'a pas beaucoup de suspense là-dessus, une saison 2 a été commandée, on va revoir nos lycéens adorés l'année prochaine. Est-ce que pour Les Randonneuses, c'est bouclé ou est-ce qu'on peut peut-être espérer voir une suite, en tout cas, ou découvrir ces femmes autrement?
Alors c'est bouclé, c'est une série qui a été pensée bouclée, qui est bouclée. Après moi je suis pas partisan de tirer des fils qui n'ont pas lieu d'être, si c'est pour faire n'importe quoi. En revanche déjà le côté choral, quelque chose qui m'a vraiment plu, même si c'est très compliqué de refaire une série chorale avec un sujet sociétal, c'est une envie. Après c'est vrai que ce casting là aussi donne très envie de faire autre chose, une suite à réfléchir. On verra déjà comment ça se passe lundi prochain, mais bon. À réfléchir.
Eh ben allez, c'est ce soir, Les Randonneuses, tous devant vos écrans sur TF1 pour les deux premiers épisodes en tout cas.
Ouais, je me permets de faire une petite précision, j'ai eu l'idée originale, donc j'avais l'idée de cette série avec tous les personnages et la narration, je l'ai co-créée avec Anna Frigonaz et Sylvie Cœur, et après j'ai eu une grande équipe de scénaristes sur le projet.
Eh ben voilà. C'est dit. Les Randonneuses, on va écouter la bande-annonce. Merci beaucoup Fanny d'avoir été avec nous.
Merci mille fois.
Et puis on se retrouve très vite du coup pour de nouvelles aventures. Tout de suite la bande-annonce, Les Randonneuses, c'est ce soir 21h10 sur TF1.
Je suis là.
Elle est là.
Il y avait un problème de réservation.
C'est pas grave si on n'est pas toutes ensemble.
Mais soyez sympa, elles ont un cancer.
À quoi? Il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein.
C'est un enterrement de vie de jeune fille ou...
Presque. On va aller toutes ensemble jusqu'en haut, avec toi et pour toi.
Même pour des gens bien portants, ça reste une ascension difficile. Vous avez bien suivi le petit programme d'entraînement?
200 pompes tous les matins et 10 km de course à pied.
C'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai.
Allez, courage!
Tiens, brave!
Et fermez vos gueules!
Les Randonneuses, votre nouvelle série inédite, lundi 15 mai sur TF1.
Allez, bougez pas, dans un instant, on va parler du retour de Tropicriminel, on va parler des secrets du Finistère, de Star 80 et de disparitions inquiétantes. On va pas s'ennuyer, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas! Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite! Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent. Ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. L'arme est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. Le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire. Mais je suis au fond de dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine s'intéresse à Disparition inquiétante, nouvel épisode inédit qui sera diffusé sur France 2 mercredi. Et aux manettes de ce nouvel épisode produit par Stéphane Strano, notre ami du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, eh bien c'est Stéphanie Pilonka qui se retrouve pour la première fois sur cette série. Bonjour Stéphanie.
Bonjour, bonjour.
Et pas la première fois dans Chute, on écoute la télé. C'est une habitude d'émission, on te reçoit toujours avec grand plaisir. Juliette Trezzanini, elle aussi une amie, c'est bien, j'ai l'impression qu'on est entre amis. Ça va Juliette?
Mais ça va très bien Alain, écoute. Toi aussi t'es mon journaliste préféré, tu le sais.
Je sais, écoute, ça me fait plaisir de vous avoir parce que en plus on te retrouve là justement Stéphanie dans quelque chose de totalement différent par rapport à ce que tu réalises d'habitude. Parce qu'on te doit quand même des fictions assez incroyables. Je pense à Andy Gang, je pense à plein de films très engagés que tu réalises. Mais là, ben, c'est dans autre chose, toujours avec des enfants quand même hein, au cœur. Puisque là dans cette disparition inquiétante, ça va être la disparition des Louans qui va être au cœur de cet épisode inédit.
Oui, c'est un petit garçon qui va se retrouver esselé, kidnappé par un homme qui se révèle être son père biologique. Et voilà, c'est la quête de cet enfant pour comprendre toutes les raisons pour lesquelles il a été soustrait à son quotidien. Et on parle beaucoup de filiation et d'enfance et de parentalité, de toute forme de parentalité dans ce film-là.
Qu'est-ce qui t'a plu en premier justement, c'est ça ? Qui t'a fait y aller pour la réalisation notamment ?
J'aimais bien l'idée que ce soit une femme, une commandante, qu'elle n'ait pas 30 ans, qu'elle soit plus proche de la cinquantaine que de la trentaine. J'aimais bien cette idée-là. J'aimais bien l'idée que c'était une femme sans enfant qui, quelque part, cherchait à se réaliser dans l'amour, mais que cela lui faisait très peur. Et j'aimais beaucoup l'idée de parler des aidants. C'était important pour moi de parler des aidants et de voilà qu'est-ce qui se passe dans la vie quand on a soudainement la charge d'un parent qui est un parent défaillant. Voilà, j'aimais bien ça.
Et cette enquête va être menée en quelque sorte sur cette disparition par Gabriel Pérez, qui est incarné par Julie Gaillet, qui forme un duo assez drôle avec Youssef HD, qui va nous rejoindre dans un instant d'ailleurs. C'est un peu le yin et le yang au départ, parce qu'il faut dire que là, Julie, elle est à un endroit où on l'attend pas, un peu très pète sec. Hein. Là, franchement, elle essaie de vraiment cacher ses émotions dans cette enquête et reste d'une relative froideur hein, quand même.
Oui, elle est très straight au début et très rigoureuse et contenue. Et puis, au fil du temps, du film, elle se révèle être plus poreuse, plus sensible et plus vulnérable. Et elle se dévoile un peu sur sa vie de femme et de fille.
Carton plein pour François Berléand, qui nous offre des scènes d'une drôlerie, franchement.
Ouais. Je suis contente parce que c'est moi qui les ai écrites, donc ça me fait plaisir.
Bravo Stéphanie, parce que même la mise en scène, voilà, j'aime bien la scène du balcon aussi. Enfin voilà, il y a plein de scènes qui sont très drôles.
Toi qui aimes bien les coulisses des tournages, comme tu es friand de ça, alors je vais te raconter quelque chose d'assez étonnant. J'envoie la séquence à François Berléand, il me dit « ça va pas être possible ». Je dis « pourquoi ?» Il me dit « je suis phobique des oiseaux et des pigeons en particulier. Donc si je vois un pigeon, je ne peux plus, je me fige et je suis incapable de me mouvoir, de vivre, de respirer, je suis paralysée. Alors, les jambes que tu vois, ce sont les jambes de mon chef opérateur. Et après, on a raccordé en tournant l'expression de François et son texte sans pigeon. Donc, il a une doublure jambe et c'est mon chef opérateur qui, lui, n'avait pas peur de toute cette volée de pigeons. Voilà.
Alors Juliette, quant à toi, on te retrouve avec un look assez improbable puisque, en fait, on vient te cuisiner. Petit rôle, mais alors efficacité au niveau du look notamment, franchement là on te voit comme on n'a pas l'habitude de te voir hein, clairement.
Stéphanie me propose toujours des rôles très loin de moi et c'est un vrai challenge de comédienne, donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à remonter à cheval pour l'occasion parce qu'il fallait que j'assure quand même au niveau d'équitation vu qu'elle est prof d'équitation, en tout cas elle a un domaine. Et puis tatouage, ça t'a plu ? Moi j'ai trouvé ça pas mal, non ?
Ah ben ils se voient bien au moins.
Exactement, ils se voient bien. On y a passé du temps avec les coiffeuses, maquilleuses à trouver ce look avec le piercing dans le nez. Non, je suis très très contente d'avoir ces images là que je vais garder précieusement.
Bon, et puis tourner sous la production de Stéphane Strano et sous la houlette de Stéphanie Pilonka, c'est pas une première avec Stéphanie en plus.
Non, mais tu sais, j'avais été crêpée la dernière fois, exactement. Je suis passe de caissière, voilà. Mais c'est toujours des rôles au grand cœur, des rôles importants. Et puis, tu me disais, on faisait les phrases qui changent la vie. Hein. Il y a aussi des rencontres qui changent la vie, et Stéphanie en fait partie. Donc voilà, je signe et re-signerai avec elle.
Elle est dans le tome 1 ou pas, Stéphanie ?
Non, parce que j'ai...
Tome 2, Stéphanie, voilà, tome 2.
Je ne l'avais pas encore rencontrée quand j'ai fait ce livre, mais elle y sera sûrement, mais elle sait ô combien je l'aime professionnellement et j'aime cette femme, voilà, elle le sait.
Stéphanie, pour terminer, le petit Élouan, franchement, il est craquant.
Ah oui, bah Élouan, c'est un très grand professionnel, c'est un garçon qui joue depuis ses plus jeunes années. Il est assez étonnant et c'était une joie de le diriger parce que il est dans une grande humilité et c'était un rôle difficile et voilà, il a été une évidence. Tous les enfants acteurs sont touchants, tendres et nous éblouissent et nous émeuvent tous. Évidemment, et le plus dur, voilà, c'est dans les films, le plus dur, c'est de partir avec une équipe et c'est toujours se priver, mais il a été formidable et je salue son professionnalisme et voilà, c'est quelqu'un qui, curieusement, c'est quelqu'un qui sait qu'il veut être acteur depuis qu'il a 4 ans.
Voilà, comme ça, c'est fait. Les projets à toutes les deux, Juliette, évidemment, c'est Phrases qui changent la vie, c'est le livre dans toutes les bonnes librairies qu'on retrouve en ce moment, Youssef Hajdi, qui vient d'arriver. Bonjour Youssef.
Bonjour, comment vas-tu Alain?
Ça va très très bien. Moi aussi, ça fait un petit moment maintenant.
Oui, ça fait depuis l'Alpe d'Huez.
Exactement, on avait passé un super moment ensemble, effectivement, à l'Alpe d'Huez. Non, on va pas tout dire. Tu sais que la devise, Youssef, ce qui se passe à l'Alpe d'Huez reste...
À l'Alpe d'Huez.
Voilà, ça c'est fait. On va juste libérer Juliette et Stéphanie, merci à toutes les deux. Allez, on écoute un extrait, en tout cas, Disparition inquiétante. On revient juste après avec le reste de l'équipe.
Enouan Mengeti, 11 ans, hospitalisé depuis un mois pour troubles sévères de l'alimentation. Il a disparu ce matin entre 8h et 8h15. Il est sorti accompagné du principal suspect.
Le type qui s'est fait passer pour un aide-soignant.
Franck ?
Ok, un hôpital, c'est pas censé être sursécurisé ?
Coupure de crédit, ils sont en sous-effectif sur tous les services.
Ok, vous avez pu faire un portrait robot ?
Vous allez adorer.
Ah ouais, salut monsieur n'importe qui.
C'est sûr qu'avec le masque, ça va pas nous aider. Pas de tatouage, pas de signe distinctif, rien.
Ok.
L'infirmière, elle est plutôt calme.
Calme comment ?
Elle m'a dit que ça lui faisait une pause que d'être auditionnée.
Les parents ?
En état de choc. On a filé des calmants à la mère, le père a refusé. Ni explication, ni idée sur l'identité du gars.
Allez, on continue à parler de disparition inquiétante après ce petit extrait. Eh bien, nous, voici avec Youssef Hajdi qui nous a rejoint, mais il était déjà avec nous. Youssef, merci d'être là en tout cas.
Merci à vous.
Et puis, il est rejoint par Dimitri Boeto également qui joue Mathéo, celui qui enlève Élouan. On va pas cacher de trahir de secret puisque c'est dès le début que ça se passe. Bonjour Dimitri, merci d'être là.
Merci à vous, merci de nous recevoir.
Première question, qu'est-ce qui vous a plu, en tout cas dans ce scénario, dans ce film, qui vous a fait y aller? Puis après, on parlera un peu de cette relation à couteau tiré, Gabriel Youssef.
Bah, la première chose, moi, c'est que j'ai déjà une fidélité à Stéphanie Pilanka, qui a une manière de fabriquer, d'accompagner une équipe comme personne. C'est qu'il y a beaucoup d'amour dans ses plateaux, il y a beaucoup de bienveillance. Elle a la force de mettre souvent dans le visible l'invisible, souvent des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de raconter au cinéma. Elle prend le temps de les raconter et de mettre un coup de projecteur sur eux. Donc déjà ça, dans son cinéma, ça me touche. Et alors forcément, quand elle me fait l'addition d'un duo comme celui de elle, déjà en première partie, et Julie Gayet, je ne peux que dire oui. Voilà. Donc et Julie, que je ne connaissais pas avant le tournage et que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est vraiment une vraie rencontre, comme on en fait rarement dans notre métier. Et puis voilà, et puis après la découverte voilà de Malik Zidi, qui est un acteur incroyable,
Charlie Bruno
que j'adore, Annie Grigorio, François Berléand, Dimitri, que j'ai eu la chance de découvrir sur ce tournage, le petit Elan, formidable,
extraordinaire.
Dimitri, t'as beaucoup tourné avec lui, toi, du coup.
Alors moi, ça a été mon partenaire de jeu tout le long du film. Et alors, je dois avouer que Judy Gaillet, Youssef Hajdi, je les ai croisés entre plusieurs prises. Mais d'ailleurs, j'étais très heureux de les rencontrer parce qu'ils ont été bienveillants à nos égards. Ils ont été gentils, nous ont encouragés. Avec Ilan, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et je dois avouer que du haut de mes 49 ans et de ce petit bonhomme, j'ai pris une grande leçon de vie. Parce que, justement, il était très professionnel. C'était un enfant en dehors du plateau. Et un réel acteur sur le plateau, on voit même pas son âge. Donc c'est quelqu'un qui vous donne la réplique, qui vous fait briller. Quand on lui dit qu'il faut faire un one-shot parce qu'on sentait que l'équipe technique était fatiguée, il était présent et il nous a soutenus pour faire des prises minimes. Et jamais de caprice, toujours très sérieux et consciencieux. Donc bravo Ilan, puis bravo tout le monde.
Il y a eu beaucoup de tournages en décor naturel, en forêt, etc. en plus avec lui, toi.
Exactement. Ce qui était compliqué, c'était les situations sur le terrain, qui étaient des terrains glissants, souvent en pente, avec beaucoup de personnes qui étaient autour de nous. Il fallait coller des bonnes marques parce que les espaces étaient importants et il nous fallait avoir des marques. Et je pense que Ilan là-dessus a été professionnel et patient, très patient. Bravo.
En tout cas, ça matche bien, les deux. Alors, là où ça matche bien aussi, quand même, hein, c'est entre Julie Gayet et Youssef. Alors là, franchement, entre Alaoui et Gabriel, ça démarre de façon quand même très tendue. Elle est pète sec. Ouais, même, on a l'impression qu'elle n'a aucun sentiment, en fait, au début. Hein. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, le personnage de Gabriel évolue. La relation s'attendrit un peu entre les deux, quand même. Ça s'assouplit, on va dire.
Mais c'est un peu la beauté de ce personnage. Moi, j'ai accepté aussi Alaoui parce que c'était... un homme qui était au service d'une femme et pas l'inverse. Donc ça permettait d'avoir une femme qui était mon chef déjà, donc ce qu'on arrive à avoir rarement dans la fiction. Donc déjà ça en fait du personnage d'Alaoui un personnage assez moderne aussi, parce que il assume sa place d'homme et d'avoir une femme qui est chef. Et ensuite dans ces personnages-là, il y a une manière aussi de... Ce qui fait qu'on se titille et qu'on a à couteau tiré pendant cette relation et cette enquête, c'est qu'en fait, il y a un effet miroir. En fait, on se reconnaît mutuellement dans nos personnages, en fait. Il y a un effet miroir tous les deux. Je sais ce qu'elle pense et elle sait ce que je pense. Donc, du coup, dans l'invisible, il y a quelque chose qui se reconnaît entre nous. Et donc, c'est ce qui crée au début de l'enquête, on est à notre deuxième ou troisième enquête ensemble. Donc, c'est assez frais, le duo. Mais on a l'impression qu'ils se connaissent depuis beaucoup plus longtemps. Parce que moi, dans mon comportement, dans la manière que j'ai d'aller la chercher, je la permets de se libérer d'une certaine parole. Et elle me permet aussi de sortir d'une zone de confort. Donc on s'aide mutuellement à avancer et sur l'enquête et dans nos vies personnelles également.
Où elle garde une certaine distance évidemment vis-à-vis de cette disparition. C'est aussi l'histoire personnelle avec son papa qui a fait une attaque et qui se retrouve déraillé un petit peu. Donc tout ça l'occupe beaucoup aussi. Et voilà, Julie en tout cas le joue très très bien. Est-ce que vous avez un souvenir tous les deux à nous raconter de tournage, Dimitri?
Moi oui, parce que j'ai eu un tournage qui a été compliqué physiquement pour ma part. Je suis resté sur une scène qui est très peu mise en avant, mais qui est la scène de l'escalade, où j'ai passé, pour donner la réplique et encourager le petit Ilan, j'ai passé une demi-journée suspendue à un harnais, avec tout mon poids sur les lombaires, et le lendemain, quand je porte Ilan, je me suis bloqué le dos, au point de me faire un malaise, et l'équipe a appelé un ostéopathe et un kiné pour venir me remettre en place et tout, sinon je pouvais pas continuer le tournage. Donc ouais, moi là-dessus, j'ai souffert d'être statique, de tout mon poids sur la corde tout l'après-midi, et après, non, pas d'autres souvenirs en particulier, sauf...
C'est déjà pas mal ça.
Ouais. Alors ça, c'était le souvenir négatif, mais le souvenir très positif, c'est que tout le monde a été bienveillant à mon égard, tout le monde a été très sympathique. J'étais très étonné de voir Stéphanie, qui avait un rôle de réalisatrice avec un film à faire tourner, tout stopper, prendre du temps, venir vers moi, demander à ce qu'il y ait des docteurs qui viennent me voir, malgré le fait que j'ai refusé, pour jouer un petit peu, enfin, comme on veut pas trop alarmer les gens quand c'est comme ça, donc on prend sur nous. Et j'ai été très, 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 très étonné du côté humain de Stéphanie, et je trouve que ce film-là lui ressemble bien.
C'est ce qui ressort systématiquement des tournages de Stéphanie Pilonka. Et c'est pour ça qu'on lui donne très souvent la parole et qu'on l'aime beaucoup, en tout cas. Youssef?
Ouais, j'ai un souvenir très émouvant de ce tournage parce que c'est vraiment, vraiment un tournage qui sont très rares. C'est que c'est vraiment, je réutilise ce mot-là, mais c'est un tournage rempli d'amour, quoi. J'ai le souvenir d'une fin de tournage avec toute une équipe, les yeux embués d'émotion d'avoir vécu cette aventure ensemble. Et vraiment, tous les regards se croisaient pour dire qu'on était heureux d'avoir vécu cette aventure ensemble. Donc ça, déjà, c'était quelque chose de fort. Et je me rappelle d'une scène avec Julie Gayet où elle me dit les quatre vérités, où elle me remet un peu en place. Elle me dit, parce que tout le long, je lui dis, mais vous faites pas attention aux autres. Et là, elle s'approche de moi et elle me fait comprendre qu'elle sait qui je suis et elle me raconte à ce moment. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose dans son jeu, forme de pudeur, d'amour, de douceur, d'âme, qui m'a profondément touché. Voilà.
Et ben merci en tout cas à tous les deux, et on vous retrouve j'espère bientôt, Disparition inquiétante, mercredi à 21h10 sur France 2, juste après Un si grand soleil. Merci à tous les deux, et à très bientôt.
Merci, à très bientôt, et c'est toujours un plaisir de partager le micro avec vous. À très bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, début de saison vendredi pour Tropique Criminelle, saison 4 inédite. Et alors qu'elles sont en ce moment en plein tournage du côté de la Martinique, déjà pour la saison 5, Sonia Roland et Béatrice de Laboulé sont avec nous. Bonjour à toutes les deux les filles.
Bonjour.
Merci d'être là, ça me fait super plaisir de vous avoir. Un début de saison de Tropique Criminelle sans vous, ça serait pas Tropique Criminelle, c'est tellement bien de vous avoir tous les ans.
On est trop content d'être avec vous.
En tout cas, vous avez l'air de vous amuser. Ce début de saison va encore ne pas nous démontrer le contraire, puisque ce début de saison va commencer très fort. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, est-ce que ce tournage se passe bien pour cette saison 5? Parce que là, vous êtes déjà en train de tourner les épisodes qui seront diffusés l'année prochaine, du coup.
Exactement. Ça se passe très mal. On a froid, il y a une ambiance terrible. Les gens sont désagréables, les paysages sont moches.
Ouais, vous êtes en train de vendre du rêve, là.
Ouais, on vend du rêve. Non, mais c'est juste merveilleux. On retrouve une équipe qu'on connaît parfaitement. C'est un peu comme si on rejoignait la famille, quoi.
Exactement, grande réunion de famille. C'est à la fois hyper pro, parce que chacun a maintenant sa place, ses repères, ses réflexes, etc. Et en même temps, de plus en plus... détendu, ce qui contribue à la qualité, je crois. Enfin voilà, on essaie de progresser en tout cas tous ensemble, et ça c'est vraiment chouette.
On sait que la comédie c'est ce qu'il y a de plus pointu, et moi j'ai l'impression que vous allez de plus en plus vers la comédie. Plus ça va, plus il y a de la comédie dans les épisodes, ça devient même omniprésent, je dirais presque c'est de la comédie policière maintenant.
Tant mieux.
Ah ben on rigole beaucoup, hein. En vous voyant, mais on rigole beaucoup, donc voilà. Mais on sait que c'est pointu la comédie. Donc est-ce que vous autorisez quelques petits moments justement de dérapage pour rigoler un peu, ou est-ce que justement vous êtes plutôt hyper sérieuse pour nous faire rigoler nous au final?
Non, en fait dans la série, ce qui fait rire, c'est surtout le comique de situation. C'est que Crivelli, évidemment, c'est un peu toujours le même poil à gratter de Saint-Prose, et du coup. C'est comment Saint-Prose répond à ça. Et souvent, elle répond de manière assez ferme, du tac au tac. Donc, c'est vrai que c'est ça qui faisait rire. Mais là, par exemple, dans la saison 4, celle que vous allez découvrir le 19 mai sur France 2, eh bien, Mélissa va faire une infiltration dans un costume assez étonnant, improbable.
Avec une perruque que je vous demande de ne pas rater. Cette perruque te va ravir, Sonia. Ouais.
Ah, merci beaucoup. Comme le mini-short qui l'accompagne. Non, et ça, c'est génial. C'est les auteurs qui ont, évidemment, à force de nous connaître, ils s'inspirent de plus en plus de nous. Donc, ils aiment aussi que les personnages nous ressemblent de plus en plus, parce que ça nous permet de les interpréter avec de plus en plus de naturel aussi. Et du coup, ils se sont rendus compte que Sonia était sexy au bout de 5 ans. Non,
ah ouais.
Ils se sont rendus compte que Sonia était très drôle au quotidien. Ils se sont dit, c'est quand même dommage de pas l'utiliser pour le personnage de Saint-Rose. Donc, ils usent de subterfuges comme l'infiltration, ou quelquefois ils lui vont vendre des substances illicites contre son gré, pour la mettre dans des situations où on peut profiter un peu du potentiel comique de Sonia, et ça c'est vraiment cool. Donc en fait voilà, quand je vous dis qu'on progresse tous ensemble, on essaye de faire en sorte que tous nos talents soient exploités, donc c'est vraiment chouette.
Bah, c'est vrai que c'est un peu frustrant qu'elle ait toujours la partie comédie à jouer, parce qu'il y a un moment, j'ai un peu
tapé du poing sur la table.
Et je dois vous dire à toutes les deux que si Mélissa Saint-Rose était un peu coincée au départ, Crivelli l'a sacrement dévergondée en 4 saisons. Hein.
Et Crivelli devient un peu plus sage.
Crivelli apprend beaucoup aussi. Et Crivelli devient un peu plus sexy aussi aux côtés de Saint-Rose. Ah ça, ouais. C'est chouette aussi. Elle se féminise. Elle n'est
pas empêchée de se taper toute l'île. Hein,
oui,
quand même.
Ça n'a jamais empêché de se taper. Mais on sent l'influence de l'une sur l'autre. Et ça, c'est une vraie histoire humaine aussi qui se ressent dans la série. Et ça, c'est chouette.
On sent une alchimie entre vous deux, en tout cas, qui fait tellement plaisir à voir et qui fait tellement du bien quand on regarde cette série, que franchement, ça fait plaisir à voir, en tout cas.
Bah, merci.
Ouais, toutes les deux en même temps, plus en cœur. Et franchement, vous êtes au top.
C'est l'alchimie.
Et par contre, ce début de saison, vous la commencez en cellule de dégrisement quand même, toutes les deux.
Oui, oui.
Encore une fois, je suis sous l'influence de Crivelli.
Mais c'est ça.
Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent que quand même la commandante Saint-Rose commence à
se débrider,
à se tropicaliser.
Se brider, ça ira.
Et c'est aussi une façon de faire en sorte qu'elle se retrouve, et tout en recréant ce petit conflit chien un chat qui existe entre elles, puisqu'évidemment, dès le lendemain, Saint-Rose regrette amèrement d'avoir suivi Crivelli. Et évidemment, il faut toujours que les auteurs trouvent des astuces pour qu'elles s'entendent sans trop s'entendre, quoi.
Ouais.
Il faut maintenir leurs différences, et c'est ça qui est marrant.
Et oui, parce que cette nuit en cellule de dégrisement, elle va s'apercevoir que la Martinique, c'est quand même petit. Et qu'elle peut retrouver des personnes qu'elle ne souhaitait pas forcément retrouver à un moment donné. Et c'est ça qui va être évidemment très drôle. Et c'est dans le domaine des chevaux que ce premier épisode va s'intéresser. Avec notre ami Stéphane Blancafort d'ailleurs, qui fait un très joli guest. Et que vous retrouvez dans Tandem d'ailleurs aussi demain soir sur France 3. Et puis Stanny Copé qu'on retrouve aussi dans Demain nous appartient tous les soirs sur TF1. Deux très beaux guests en tout cas déjà pour ce premier épisode. Vous démarrez très fort les filles.
Oui, et puis Nicky Marbeau, et puis Otis Nguyen. C'était un super double épisode en plus, parce que c'est un épisode avec un cliff, avec un suspense à la fin de l'épisode 1 qui se dénoue sur l'épisode 2. C'est la première fois qu'on a un double épisode. Et franchement, tout est fabuleux dans ce début de saison. La lumière du chef opérateur qui est très... Il y a une nouvelle lumière aussi qui est très travaillée. L'univers du cheval, les guests... le fait que Saint-Rose et Crivelli se séparent un peu, puis on a deux nouveaux duos avec Sonia et Sani, et puis moi plus avec Julien Biramis, notre lieutenant. Donc c'est intéressant, c'est nouveau, il y a beaucoup de nouveautés dans cette saison 4 et beaucoup d'humanité aussi. Je trouve qu'on rentre à l'intérieur de l'humanité des personnages.
C'est intéressant de voir aussi Crivelli aux commandes d'une
enquête. Oui.
Parce que là, c'est elle qui va diriger un peu l'équipe, quoi.
Il y a énormément de suspense dans ces deux premiers épisodes, c'est très beau, c'est... Et puis, effectivement, Stéphane, Blancafort et tous les guests sont fabuleux.
Mais qu'est-ce qu'on s'est marré avec eux.
Ça ne m'étonne pas.
C'est très, 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 très riche, ces deux premiers épisodes.
Et en tout cas, toute la saison, les guests se précipitent maintenant pour venir faire un guest chez vous. C'est incroyable le nombre de comédiens qui vont passer déjà dans cette saison 4.
Et on a des surprises en saison 5, attention.
Oui.
Il y en a une que vous pouvez déjà nous dévoiler ou pas du tout pour l'instant?
Terminerie, ça.
Ben oui.
Nous fait le plaisir de nous rejoindre.
Bah, c'est génial.
J'ai vu ma grand-mère.
Ah ben c'est super ça.
Ça faisait très longtemps qu'on avait envie qu'elle vienne et elle était trop mignonne parce qu'elle disait moi j'attendais qu'on me le propose.
Ah, trop mignon. Non mais on a vraiment beaucoup de chance d'être sur un plateau aussi bienveillant, joyeux et puis très pro comme disait Béa tout à l'heure.
Bon, ben on tâchera en tout cas d'aller vous retrouver, j'espère, un jour. On a été à La Réunion, un jour tourner une émission. Alors, la Martinique, ça sera l'occasion d'aller vous voir, j'espère, l'année prochaine. Mais ça sera avec grand plaisir. Bon, en attendant, les filles, il y a beaucoup de projets aussi quand même pour vous deux. Parce que Béatrice, t'as pas chômé entre les deux. T'as fait Meurtre à Font-Romeu, qu'on verra bientôt sur France 3 aussi. Et puis Sonia, on a été sur le tournage avec toi, justement, d'Un Destin, inspiré de ta vie aussi, que t'as tourné sur Angoulême et qui sera diffusé probablement à l'automne sur France 2. Mais ça, c'est deux belles aventures, en tout cas, qui vous attendent toutes les deux, là.
Ouais, tout à fait. Puis moi, j'ai lancé mon seul en scène aussi. Ça, c'était la grosse aventure de cette année, où je suis montée seule sur scène sur un spectacle que j'ai écrit. Voilà, donc ça, c'était les débuts, là, cette année. Mais c'était aussi une sacrée aventure. Et je m'y remets dès septembre, là. Je plonge là-dedans quand je rentre.
Et tu parles un peu de Crivelli sur scène aussi, ou pas?
Un petit peu. C'est un spectacle sur les héroïnes. Donc, Crivelli fait partie de mes héroïnes, évidemment.
Ben oui. Bon, c'est super. En tout cas, vous aurez l'occasion de revenir très vite dans Chute, on écoute la télé. J'en suis certain, les filles. Je vais vous laisser continuer à tourner pour qu'on ait de beaux épisodes l'année prochaine. Et puis, on va savourer, en tout cas, les deux premiers épisodes de la saison 4. Ça sera vendredi à 21h10 sur France 2, juste après. Ainsi, grand soleil. Je vous embrasse très, très fort. Je sais que vous nous avez envoyé plein de soleil pendant ces 10 minutes. Merci d'avoir été avec nous.
Bisous,
à bientôt, les filles.
Au revoir.
Et tout de suite, la bande-annonce, on écoute. C'est parti.
Salut Phil.
Ah, j'aime bien.
Quoi?
Bah votre nouveau look. Ah. C'est plus décontracté.
Ouais, Phil, on n'a pas beaucoup dormi, donc si tu pouvais aller droit à l'essentiel, identité de la victime.
J'ai de l'aspirine, si vous voulez.
Non, juste les infos. Ouais.
Tropique criminel. La nouvelle saison commence fort vendredi 19 mai à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, notre coup de cœur télé consacré au téléfilm Les Secrets du Finistère qui sera diffusé samedi sur France 3. Un nouveau film de la collection avec Jérémy Banser qui est justement avec nous. Bonjour Jérémy.
Salut Alain, comment vas-tu?
Eh ben ça va très très bien, je suis très heureux de t'avoir. On va te retrouver dans le rôle de Jérémy Lobby aux côtés d'Edwin Wicks dans ce nouvel opus des fictions, des collections Meurtra, Crimaa. Et là c'est Les Secrets du Finistère qui vont nous emmener dans une région qu'on adore, la Bretagne évidemment, où on va prendre un bon bol d'air frais. Bon bol d'air frais que t'as dû prendre toi aussi pendant le tournage je pense, hein?
Tout à fait. Écoute, on a déjà la Bretagne, c'est magnifique, c'est sublime. Moi, je connaissais pas bien du tout, et ce tournage m'a permis de pouvoir m'évader les week-ends sur l'île de Groix, la pointe du Raz et tout, d'aller me balader là-bas. En plus, on a tourné dans des décors magnifiques. Et c'est vrai que c'est très beau, c'est très très beau. Ça m'a, on est en contact, au contact de l'élément. Et j'adore ça. Ça m'a beaucoup fait penser à la mer, forcément, que j'adore. Au bateau, on a vraiment l'impression d'être en mer quelquefois, tellement on est à la pointe, au bout du monde.
Et oui, alors comme tout bon film de la collection, il y a du mystère, il y a un peu voilà, il y a un meurtre, il y a plein de choses qui se passent, et puis des légendes aussi qui viennent se greffer tout à tout fait. Ça. Et là, on va y suivre lors d'une nuit de tempête l'histoire d'un arbre centenaire qui va s'effondrer et qui va receler beaucoup de mystères, puisqu'on va y retrouver des ossements au pied qui ont été enfouis dessous la souche. Et c'est là que sur ça que vous allez devoir enquêter tous les deux avec le personnage joué par Evelyn Bouix.
Exactement. Quand François Aramburu, le producteur, m'a envoyé le scénario, c'est vrai que tout ce monde du druidisme, qui est assez méconnu, qui est très impactant en Bretagne, parce que c'est quelque chose, voilà, auquel on fait très attention et qui a vraiment un écho chez chacun, ça résonne chez chacun dans cette région de France. J'ai trouvé ça très très intéressant de partir de ce postulat et de pouvoir justement l'intégrer à l'histoire, l'intégrer à l'intrigue, que le personnage d'Evelyne en plus soit vraiment Morgane Le Dantec, très sensible à tous ces signes de la vie, à écouter, comme je dis, cette synchronicité qui peut arriver dans la vie. On a des petits signaux quelquefois auxquels il faut faire attention et qui peuvent nous donner des réponses à des questions qu'on peut se poser à ce moment-là, et son personnage est comme ça, et j'ai trouvé ça très très bien que justement ce druidisme et toute cette culture celte et cette culture bretonne soit très très présente dans l'intrigue, et ça donne du relief et ça donne une dimension supplémentaire à l'intrigue, et on sort un peu justement, on se décale un peu de toutes les intrigues policières habituelles.
On apprend plein de choses finalement, voilà, on apprend que le druidisme justement c'est quelque chose qui est très secret, que les gens ne divulguent pas s'ils en font partie, s'ils en font pas partie.
Ah, il y a une omerta.
Il y a une omerta hein, d'un région, et ça on l'apprend grâce à ce film, parce que moi-même je connaissais pas du tout justement ça. On apprend vraiment, donc voilà, moi je conseille vraiment de suivre ce film pour en savoir plus là-dessus. Comment te définirais toi, Jérémy Laubier, justement dans cette enquête?
Écoute, Jérémy Laubier, il est assez antagoniste, assez ambivalent dans son caractère, et c'est ce qui fait qu'il était très intéressant à défendre et à jouer, à interpréter. Il a un côté tête brûlée, il a un côté un peu rentre-dedans, un peu cash dans sa manière de mener ses enquêtes, parce que quand il pense que quelque chose est vrai, il va, voilà, c'est droit au but, il passe pas... Il n'y a pas de diplomatie, c'est vraiment direct pour pouvoir résoudre une enquête. Il s'embarrasse pas. Et à côté de ça, il a une vie personnelle qui est beaucoup plus. Il fait preuve de beaucoup plus de sensibilité. Il est dans la paternité puisqu'il va devenir papa pour la première fois. Donc il est en plein doute en même temps. Et donc tous les doutes qu'il peut avoir du côté personnel jusqu'à présent n'impactaient pas sa vie professionnelle d'enquêteur. Et là, pour la première fois au contact de Morgane, il va faire un petit pas de côté. Voilà, il va être obligé de faire un petit pas de côté. Il va être obligé de voir le monde un peu différemment. Il va être obligé de s'adapter, et ça le rend donc beaucoup plus intéressant et beaucoup plus touchant. Et c'est par là que j'ai voulu l'emmener en plus. J'ai vraiment toujours joué ce dilemme, toujours essayé de comprendre ce qui lui arrivait. Et donc, on a un personnage qui se pose beaucoup de questions, qui se remet en question, tout en avançant, tout en étant toujours flic. Ça le rend touchant, ça le rend plus accessible, plus sensible. Et ça, c'était très intéressant à défendre.
Au contraire, justement, du personnage d'Evelyn, qui est quand même assez froid, qui reste même entre eux. Hein, c'est un peu froid au début, hein, quand même.
Oui, c'est vraiment une relation... opposés, ils sont opposés diamétralement tous les deux, ils n'ont pas du tout la même vision du monde, la vision de mener une enquête, la manière de faire. Voilà, c'est deux cuirs qui s'opposent, et tout en se respectant, tout en voyant que les méthodes de l'un et de l'autre fonctionnent. Maintenant, les deux ensemble, ça fonctionnerait encore mieux. Et ils ont l'intelligence de pouvoir à un moment donné s'allier et de faire en sorte d'aller au bout de cette enquête, et que voilà, ils s'apprivoisent. Pendant une heure et demie, ils vont commencer à se détendre vraiment à la fin, où là, vraiment, on va avoir une complicité naître entre eux et beaucoup de respect. C'était très agréable de faire ça avec Evelyn.
Et on va évidemment à la fin savoir voilà qui est, comment justement ces ossements sont arrivés là, évidemment. Mais pour ça, il faudra rester samedi soir. C'est justement à 21h10 que vous pourrez découvrir ce nouveau téléfilm Les Secrets du Finistère, à découvrir un bon bol d'air frais qui nous attend. On va terminer par tes projets, Jérémy. Alors je sais que tu es en train de terminer le tournage de Bugarache. C'est une série qui compte beaucoup pour toi, parce que tu l'as coproduit notamment. C'est pour France.tv. On la découvrira début 2024.
Tout à fait. Une série qui nous tenait à cœur, au réalisateur Fabien Montagnier. Ça fait plusieurs années qu'il portait ce projet. On savait pas comment on allait le décliner. On a pu, grâce à France Télévisions et La Fabrique, lui donner vie. Donc on a tourné 8 épisodes qui vont être diffusés, je ne sais pas encore quand, mais courant 2024. C'est une série d'anticipation, de science-fiction, comme on en fait peu en France, où on part aussi justement de la ville de Bugarach et d'un vortex où un groupe de jeunes ont la faculté, la possibilité d'aller dans le passé, d'aller dans un monde 1, dans un monde 2, dans un monde 3, où l'écologie est aussi au centre des débats et où ils vont essayer d'agir en résolvant des choses, en découvrant des secrets de famille, voilà, des choses enfouies. Et c'est vraiment très, très réussi. C'est vraiment très chouette. Donc ça, c'est ce que je viens de finir de tourner, que vous allez voir l'année prochaine. Et puis, il y a Les Secrets du Finistère. Il y a un deuxième opus qui est en écriture. Donc ça, on est très content avec Evelyne et avec toute l'équipe.
Ah, une
avec
suite,
les auteurs, avec le producteur. Ouais, ouais. Écoute, il semblerait, mais c'est en écriture. Donc ça a été validé en écriture. Donc il se pourrait qu'on tourne un nouvel opus fin 2023, à la fin de cette année, quoi. Voilà, en Bretagne, qu'on y retourne avec grand plaisir.
Bon, et puis évidemment un rôle qui t'aura collé évidemment pendant plusieurs années, celui de Julien Bastide, si toute la famille a été décimée dans Un Si Grand Soleil. C'est une série qui aura vraiment marqué un tournant pour toi, et je suis sûr que t'as encore plein de fans qui te demandent si un jour t'aimerais y revenir. Et c'est la question que tout le monde se pose: si un jour on te proposait une intrigue événementielle pendant un mois, deux mois, est-ce que tu serais prêt à y revenir un jour, justement?
Écoute, comme je dis à chaque fois, Alain, c'est l'écriture qui fait tout. C'est-à-dire que quand tu lis un scénario, quand on t'envoie quelque chose, un texte où t'as plusieurs scènes que tu as envie de défendre, je reviens au Secret du Finistère, il y a une scène de soulerie qui est extraordinaire. Quand je l'ai lu, j'ai dit je veux absolument interpréter cette scène parce qu'elle est merveilleuse. Et il y a aussi 3-4 scènes dans un scénario qui te donnent envie de défendre un personnage.
Ouais.
Donc l'écriture, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand t'as un coup de cœur à l'écriture de ce que t'es en train de lire sur un personnage, tu dis oui, je veux l'interpréter, je veux, c'est comme ça que j'ai envie de l'axer, c'est comme ça que j'ai envie de le défendre, je pense que je peux y amener ça, je pense que je peux faire passer ça comme émotion. C'est tout simplement ça, en fait, un métier d'acteur. C'est qu'à un moment donné, on s'imagine, on se projette dans un personnage. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Je fonctionne à l'écriture, je reçois un scénario, je reçois une lecture. Après, évidemment, il y a le producteur, il y a le réalisateur ou la réalisatrice, les auteurs, les comédiens, les partenaires. Ça, tout ça, c'est un tout. Mais quand déjà, on part sur quelque chose de très fort et qu'on a envie de défendre à l'écriture, 90% du travail est fait. Voilà, donc moi, je me concentre là-dessus. Après, je reçois pas mal de projets. Je dis oui, je dis non, mais c'est toujours en fonction de l'écriture. Donc voilà, c'est
la porte
la
ouverte.
Suite, nous verrons.
Voilà.
La suite, nous verrons. voilà, la suite, nous verrons. Même si je pense que j'ai fait quand même pendant 3 ans, j'ai vraiment pu défendre comme je le souhaitais ce Julien Bastide et prendre beaucoup de plaisir à le faire. Ça a été un grand bonheur de le faire et en plus en étant très bien entouré de cette famille et des autres comédiens. Voilà, donc pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. Il y a plein d'autres choses et de beaux projets à mener.
Et oui, tu travailles sur ton prochain film. On aura l'occasion d'y revenir, mais bien sûr, hein, tu travailles aussi sur ton prochain film aussi. Après La Vie Pure, on aura l'occasion évidemment d'en reparler très vite.
Avec plaisir, Alain. Avec plaisir.
On t'embrasse très fort. Merci, Jérémy,
d'avoir été
avec nous.
Merci. Merci à toi et merci à vous et à toute votre équipe. Et bravo encore pour tout ce que vous faites de soutenir et la télévision et le cinéma français.
Le Secret du Finistère, c'est donc samedi à 21h10 sur France 3.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Je t'aurais dit toutes les choses que je ne t'avais jamais dites, que ta peau a l'odeur des roses, que j'adore le prénom Edith. Je t'aurais dit toutes les choses qu'on ne dit pas assez souvent, car souvent dans la vie on n'ose pas dire les choses tant qu'il est temps. Je t'aurais raconté la mer, que tu la vois une fois encore, on aurait viré l'infirmière, puis on aurait rigolé fort. Je t'aurais dit que ton visage me fait penser à l'océan, que tes rides ressemblent à des vagues où vont se baigner les enfants. Si j'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas, si j'avais su, si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois. Je t'aurais refait ton chignon et toi tu m'aurais dit ça tire. J'aurais fait un peu le con juste pour regarder ton sourire. Je t'aurais promis de faire une chanson qui raconterait comme t'étais belle, qui raconterait comme on est con, croire que les gens sont éternels. Et puis je t'aurais serré si fort qu'il y aurait des marques à ton cou. Je t'aurais regardé encore et puis je t'aurais regardé surtout. Je t'aurais enfermé dans mes yeux, j'aurais capturé ton parfum. Je t'aurais dit au revoir un peu mieux, puis j'aurais menti à demain. En partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas.
j'avais su, si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois,
je me serais dépêché de t'aimer comme l'on court après la vie, car on n'aime jamais assez. Je t'aurais dit je t'aime aussi. Les mots faut pas qu'on les conserve, faut les distribuer à la ronde. Sinon les mots, à quoi ils servent, à part à décorer les tombes.
Si j'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su que le temps, on ne sait pas qu'on voit quelqu'un pour la dernière fois.
Tous les bonus audio et vidéos de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé. On écoute la télé, le talk show radio.
Et notre coup de cœur télé consacré à Star 80 encore, qui sera diffusé samedi soir en prime time sur France 2 à 21h10. Le spectacle événement mis en scène par Jean-Philippe Lemonnier qui est avec nous. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors les Star 80, on n'en finit pas. On aime ça et on aime tellement ça que la tournée n'en finit pas encore. C'est le cas de le dire, puisque non seulement il y aura le spectacle samedi qui a été capté au Zénith de Nantes, mais que la tournée continue en 2024, c'est un succès phénoménal.
Phénoménal. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner quand on a démarré. On était même assez pessimistes. Beaucoup de gens étaient même pessimistes pour nous. Et on a été vraiment surpris de l'engouement que ça a pris. Là, je crois qu'on est la première session de tournée, une quarantaine de zéniths pleins à craquer, qu'on a Bercy en ligne de mire en décembre et qu'on fait la même tournée l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on a été les premiers surpris. Je me souviendrai toujours de la troupe d'artistes avec qui on était à Reims, puisqu'on a fait la première à Reims en février. Et on a été, nous, surpris, spectateurs même de ce qui nous arrivait. On a vu l'engouement tout de suite, qu'on s'est un tout petit peu pris dans la tronche, comme on pourrait dire vulgairement, mais et vraiment, on a été surpris, on s'est vraiment demandé ce qui nous arrivait, les artistes en premier.
Eh ben, j'imagine très bien, on va en parler avec Phil Barnet dans un instant, mais je suis bien sûr que dans les années 80, ils n'avaient pas des scènes aussi grandes, aussi folles, et pourtant le succès était déjà incroyable pour eux à l'époque. Mais là, ils doivent vivre quelque chose qui doit être fou, on va en parler avec Phil dans un instant. Mais on retrouvera sur scène donc samedi soir Patrick Hernandez, Émile et Images, Jean-Pierre Madère, il y aura William de début de soirée, Johnny Jemison, on aura Christiane de Zouk Machine, Vivien Savage, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère évidemment, mais c'est dingue. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la mise en scène, quand d'un seul coup c'est capté pour la télévision? Qu'est-ce que ça change, Jean-Philippe?
Alors, non, on a pris la base du spectacle, on a rajouté les petits effets, on a donné au public des petites lumières, vous savez, comme il y a dans la tournée de Coldplay, pour faire des jolis plans larges avec le réalisateur Tristan Carnet. Donc, on a un peu upgradé. En fait, c'est comme dans toutes les captations, entre un concert et une captation télé, on upgrade un peu la lumière, on upgrade un peu les mises en scène, mais c'est vraiment le spectacle qu'il y a sur scène qui aura la télé. Mais un petit peu gradé, je vous dis, avec des artifices supplémentaires. Voilà, on n'a fait que rajouter quelques artifices. On n'a pas changé la base du spectacle parce qu'on en était très heureux et on voulait justement pas y toucher parce qu'on a fait un petit bijou avec lesquels les artistes s'amusent beaucoup. Donc on voulait pas les déstabiliser. Donc on a fait exactement le même spectacle que pour le reste de la tournée.
Est-ce qu'il va y avoir des invités surprises du coup?
Eh ben non, on reste avec notre troupe parce que justement on a fait une troupe serrée et on a voulu garder cette ambiance entre eux. En fait, l'idée du spectacle, ça a été aussi de montrer aux spectateurs dans la salle l'ambiance qu'il y avait entre eux, en coulisses, puisque sur les précédentes tournées, ils faisaient chacun un petit peu leurs prestations.
Oui.
Là, on les a un peu mélangés, ils font des bébés ensemble, ils font des duos, ils font des quatuors, ils font des collégiales, ils s'amusent beaucoup les uns avec les autres, et on n'a pas voulu casser ou briser avec les producteurs Thomas Langman et Pierre-Alexandre Vertadier. On s'est dit qu'on voulait pas briser cette alchimie. Le spectacle était tellement dingue sur scène et le retour qu'on avait dans la salle, qu'on voulait pas risquer de casser cette ambiance-là.
Alors, ça veut dire que à la base, c'est vrai que les tournées Star 80 ou à l'époque, justement, les RFM Party 80, les artistes chantaient leurs chansons et on les voyait une fois, etc. Là, du coup, le fait d'avoir une troupe un peu plus resserrée, ils chantent plus de chansons, on les voit beaucoup plus sur scène, finalement, tous les artistes, du coup, maintenant.
Exactement. Et surtout, ils partagent entre eux des moments. Il y a vraiment des moments que on a fait 4-5 petits medley thématisés autour des grands thèmes des années 80 qui sont, par exemple, la New Wave. On a des reprises en duo que moi j'adore avec justement Patrick Hernandez et Jean-Pierre Madère qui font partenaire particulier en version survoltée où le public est, et comme des fous. Donc voilà, oui, ils s'amusent à faire des reprises. Et puis, on a fait les petits medley, puis ils restent les uns avec les autres. Il y a un artiste qui chante une chanson, ils font les chœurs derrière, etc. L'idée, c'était d'être beaucoup plus chaleureux et d'en faire une vraie troupe, qui est la troupe de Star 80.
Alors, l'aventure va pas s'arrêter là, puisque la tournée va se prolonger jusqu'en avril 2024. Il y aura même un passage à l'Accor Hôtel Arena de Paris le 17 décembre à la fin de l'année. C'est dingue, l'aventure continue. Et on va pouvoir profiter de ce spectacle. C'est rare de pouvoir profiter justement d'un spectacle à la télé avant qu'il soit totalement terminé. Là, on va vraiment pouvoir le voir. Ça va nous donner envie, certainement, sur les futures dates, aller le voir en vrai, parce que rien de tel que spectacle vivant, quoi, en plus. Hein.
Sûrement. Et en plus, c'est un joli cadeau que nous a fait France 2, parce qu'ils nous ont très vite fait confiance, ils nous ont très vite donné leur accord, donc on est très heureux de ça.
Bon, Jean-Philippe, on va parler aussi des projets, parce que, alors si là, le show est réalisé par le maître du genre en réalisation, Tristan Carnet, à qui on doit aussi les rencontres du Papotin pour France Télévisions en production, vous êtes aussi producteur, et on vous doit la boîte au secret, le dernier prime des Baudins sur M6, le prime des Sidaction sur France Télévisions. Alors, quels sont vos projets en matière de production, Jean-Philippe?
Eh bien, on est en train de tout ficeler en ce moment, et je suis déjà heureux de pouvoir vous dire que la boîte au secret reviendra à la rentrée, ce qui est sûr, donc on est très heureux déjà, et puis les autres aussi, on est en cours de négociation avec les chaînes, mais ça se passe très très bien. Les Baudins se reviendront sûrement en 2024 aussi. Voilà, tout suit son cours normalement et on est très heureux. On est en finition de contrat avec les chaînes et tout va bien.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jean-Philippe, d'avoir été avec nous. On va retrouver Phil Barnet dans un tout petit instant, mais juste avant, on va se plonger un peu dans les années 80. Allez, pour le plaisir, voici un peu de musique des années 80 qui va nous faire du bien juste après. Phil Barnet nous rejoint. À tout de suite.
Merci
Jean-Philippe.
Au revoir.
Seul au fond de l'espace, personne devant, non, personne. Dès que t'arrives en parler au passé, dès que tu l'oublies à plus penser à ça, dès que tu l'oublies à longueur de journée. Time is on my side and I was running out of sleep.
Et voilà, ça fait du bien les années 80, surtout en ce moment on en a vraiment besoin, ça nous vide la tête un petit peu tout ça. Et quel succès incroyable, on va en parler avec Phil Barnet justement qui nous a rejoint. Bonjour Phil.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Phil, franchement, mais c'est un succès incroyable, c'est ce qu'on disait avec plusieurs de tes copains, on va dire, de l'époque. C'est que même à l'époque, vous remplissiez pas des si grandes scènes, des si grandes salles. Et aujourd'hui là, c'est carrément l'Accor Hôtel Arena à la fin de l'année, c'est dingue.
Oui, absolument. En fait, c'est la tournée depuis qu'elle s'appelle Star 80. Alors avant, même sur la tournée dont on parlait tout à l'heure, RFM Party, ça marchait très très bien. Je pense que c'est au début où ils avaient un peu de mal à remplir les zéniths, mais bien évidemment, c'était une idée toute neuve. Les gens s'y attendaient pas. Et au fur et à mesure, cet engouement s'est construit et puis les gens ont suivi. Il y a des gens qui sont venus tellement de fois. J'ai croisé une fan des années 80 qui vient nous voir régulièrement. Elle m'a dit qu'elle avait pris 70 billets depuis que la tournée existait. Donc je trouve ça absolument génial, c'est chaleureux, c'est fidèle. Et puis les gens s'amusent. Il y a de plus en plus de monde en fait dans les salles. Il y a même 4 générations dans les derniers spectacles qu'on a fait. On est les premiers surpris et on est vraiment ravis, emballés. Voilà, on est hilar, on va dire.
Comment t'expliques ça, Phil, ce succès totalement incroyable et des chansons qui se démodent pas plus de 40 ans plus tard?
Plus ça va et moins on comprend, je pense. En fait, on s'est dit que la décennie 80, qui est une décennie un peu magique, elle correspond à plein de souvenirs, de je sais pas moi, de jours heureux, de choses comme ça. Mais en fait, comme les générations qui arrivent, qui ne connaissaient pas les années 80 et qui s'amusent tout autant, je pense que les parents ont transmis les chansons.
Ah, une histoire de transmission, on est bien d'accord.
Voilà, sur 2-3 générations. Et il y a même des petits loups qui viennent, qui ont une dizaine d'années, qui sont sur les épaules des parents. On se dit, mais t'étais où quand on a écrit ces chansons? Enfin, tout ça est très bon enfant, très sympathique. Personne ne se prend au sérieux. Les gens se déguisent et s'amusent beaucoup. Et nous, on est ravis parce que nous non plus, on se prend plus au sérieux. On s'amuse aussi, comme au premier jour, j'allais dire entre guillemets, mais pas vraiment puisque on joue plus des coudes, on n'est plus en compétition sur des tops ou des choses comme ça. On n'a que de plaisir à prendre, à chanter et à plaire aux gens.
Ah oui, c'est ça qui se ressent. On en parlait avec Jean-Philippe il y a un instant. On a un casting resserré sur justement cette tournée, ce spectacle que vous verrez à la télé donc samedi sur France 2. Parce que du coup, on vous voit beaucoup plus longtemps, chanter plus de chansons aussi sur scène. C'est peut-être moins frustrant que quand il y a énormément de monde et vous chantez tous qu'une chanson ou deux max, quoi.
Voilà, exactement. En fait, le fait d'avoir choisi cette option de prendre moins d'artistes, on est plus en plus il y a une cohésion qui est différente. L'équipe est beaucoup plus resserrée, on va dire. Il y a plus d'interactions entre nous. Il y a des duos, des trios, il y a des collégiales. On est tout le temps sur scène. Enfin voilà, c'est une autre manière de travailler. Et franchement, on est ravis. On pensait pas en fait. On s'est dit peut-être que les gens vont regretter, ce qui est peut-être un peu le cas, de regretter les danseuses, regretter le présentateur Lucky, qui était un garçon plein de talent, plein de ressources et qui était vraiment d'une bonhomie, d'une gentillesse extra. Mais en fait non, les salles sont archi pleines. Je crois que l'ambiance, elle est encore plus folle que sur les dernières tournées. On l'explique pas, mais on pense que cette équipe, elle est beaucoup plus soudée. Ça se voit dans le bus, on est avec les musiciens, on s'amuse beaucoup. Il y a des after-shows qui sont très sympas. Voilà, avant, il y avait avec 20 artistes, plus les musiciens, plus les danseurs, etc. C'était un joyeux bordel. Et maintenant, c'est vraiment une vraie bande de potes, une famille, entre guillemets, qu'on transporte de ville en ville.
Alors, il y a eu, on va dire, deux moments magiques dans cette histoire. Alors, le premier qui te concerne directement, tu sors ton titre qui fait un carton, Un enfant de toi, en 1986. Et puis, oui. 16 ans plus tard, le titre revient au goût du jour de façon totalement inattendue et magique avec une jeune fille, pour le coup, parce que c'est une jeune fille à l'époque, Marlène Duval dans le Loft 2.
Absolument.
Et qui repropulse ton titre en tête de tous les classements. Ça a été complètement dingue pour toi, cette histoire.
Ah oui, absolument, parce que j'étais le premier surpris. Alors, moi, je déteste ce genre d'émission. Pour moi, c'est de la trash TV. Je déteste ça. Et donc, j'étais pas du tout au fait de ce qui se passait en télé. Pour tout te dire, j'avais un bosseron, un chien énorme, et je le promenais dans la forêt la nuit parce que la journée, il était protecteur sans que je lui ai rien demandé. Donc ça créait un peu des embrouilles. Donc je me promène avec le chien la nuit. Et au moment où je rentre dans la forêt, je reçois une avalanche de textos qui me dit « C'est génial, t'as une fan dans le Love, bravo le coup de pub. »
Regarde la 6.
Comme si j'avais fait ça. Et je me suis dit, ça va m'attirer des ennuis, c'est pas bon pour l'image que j'essaye de véhiculer, c'est-à-dire du musicien, du vrai chanteur qui se compromet pas dans des trucs comme ça. Et en fait, le lendemain, c'est Charlie Nestor qui m'appelle en me disant « Attends, je te passe quelqu'un » et j'entends une petite voix qui fait « Avoir un seul enfant de toi ». J'ai dit « Écoute, repasse-moi Charlie ». J'ai passé l'âge d'être la stripteaseuse qui sort du gâteau pour faire plaisir aux gens. J'étais un peu coincé sur le coup. Et en fait, mon épouse qui est dans la musique m'a dit « Écoute, il faut absolument aller rencontrer ces gens, savoir ce qu'ils veulent faire. De toute façon, ils le feront, ils vont le faire sans toi et ça sera moins bien ». Alors j'écoute toujours mon épouse parce que les femmes ont toujours raison, tu sais bien.
Et oui.
Donc je suis allé donc à M6, j'ai rencontré Marlène Duval qui était une jeune fille absolument charmante et très sage et vraiment très sympa.
Et voilà, la magie a opéré.
Et la magie a opéré, on a fait 4 mois de tournée, de spectacle, et on a été numéro 1 disque de platine pratiquement en une semaine. On est rentré directement deuxième et on est passé devant. Je me souviens, c'était Mickaël Youn qui était en tête avec coucou
Stache, les Bratislava ouais. Boys.
C'est ça, on les a cramés gentiment. Sur le
vous loin, avez cramé les Bratislava Boys, non mais c'est dingue ça.
Et on est rentré la deuxième semaine, on était déjà numéro 1. Et voilà, ça a été une très très belle aventure et j'ai été le premier surpris.
Et deuxième moment magique, alors là, qui concerne complètement la tournée des années 80, qui commençait peut-être légèrement à s'essouffler, et puis d'un seul coup, idée de génie, Thomas Langman produit ce film Star 80, et qui là a repropulsé encore plus fort en fait ce qui se passe encore aujourd'hui.
Absolument, ça a été un truc en escalier en fait. La tournée marchait bien, et Thomas s'est associé avec le producteur de l'époque qui était... Coco Cinetti de chez Yen Productions, et il s'est dit pourquoi ne pas faire un film puisque ça marche et que c'est populaire. Effectivement, ils ont fait un premier film qui a été très très beau, enfin qui a fonctionné contre toute attente. Les gens croyaient que c'était un doc, mais en fait c'était un vrai film.
Ah, puis qui était très chouette.
Ça a marché en escalier du succès de la tournée est passé au succès du film, et le succès du film a relancé le succès de la tournée.
Exactement.
Donc ça a été une traînée de poudre quoi.
Bon, et eh ben écoute, Phil, t'as des projets? Pour la suite, est-ce que tu as des envies particulières? Est-ce que tu auras envie de ressortir des nouveaux titres peut-être aussi?
Alors absolument, je travaille sur un nouvel album, je dois avoir une trentaine de titres parce que le Covid nous a un peu coincés à la maison. Ben moi, coincé à la maison avec mes guitares dans mon studio, ben j'ai fait des chansons. Donc je travaille à l'élaboration de cet album. Je prends mon temps parce que j'ai beaucoup de respect pour le texte en fait, et j'essaye de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, enfin du moins par rapport à mon travail, si vous voulez. J'essaye toujours de me renouveler, d'essayer de pas toujours traiter des mêmes sujets, même si de toute façon les chanteurs tournent toujours des mêmes thèmes. Voilà, et puis donc j'ai une trentaine de chansons, je vais en garder une douzaine pour essayer de faire un nouvel album. J'ai deux spectacles complètement différents de Star 80, un duo avec un guitariste qui jazz et rock en même temps. C'est un guitariste de Nice, ça s'appelle Eric Sampé, qui a beaucoup de talent, qui joue très souvent avec Dédé Segarelli, avec John McLaughlin, avec des gens comme ça. Moi, je fais toutes les guitares acoustiques et les voix, il fait les guitares électriques, et le duo marche très bien, enfin, c'est très sympa. Et je prépare un spectacle de funk, alors là, complètement différent, avec Sidney HIPHOP, je ne sais pas si tu te souviens de ce garçon, qui est pratiquement la légende du hip-hop en France. Moi, j'ai commencé en étant DJ, de passer de la black music, je suis branché funk, j'ai même eu la chance de faire un album avec Marvin Gaye en 81, enfin bref, je suis branché black music, donc avec Sidney et Janis Jameson, qui est avec nous sur la tournée Star 80, nous avons fait un truc en trio, un tribute funk des années, en gros, 79-82, avec tous les gros standards, en live, avec musiciens. Voilà, un truc qui est malgré tout années 80, si même sans le vouloir quoi.
Bah oui.
Mais voilà, mais complètement orienté
en plus que Lang the Gang, Imagination et compagnie.
Dans ce genre de truc un peu moins commercial, à la fois commercial et pas très commercial, plutôt pour garder une espèce de crédibilité par rapport aux aficionados et aux mecs qui aiment vraiment ça quoi.
Bon, eh ben écoute Phil, tu reviens nous en parler quand tu veux, et puis je te lance le défi, dès que ton album est prêt, tu seras le bienvenu dans Chut on écoute la télé, tu nous présentes ça.
Eh ben c'est très très gentil, en tout cas je vous remercie beaucoup, et puis à très bientôt, samedi à la télé donc.
Eh oui, samedi à la télé, on te retrouve aux côtés de Patrick Hernandez, Émilie Image, Jean-Pierre Madère, Sabrina, William de début de soirée, Johnny Jamison, Zouk Machine, Vivien Savage, ça va déménager, décoiffer, je vous le dis, c'est à 21h10, et c'est donc samedi sur France 2, merci beaucoup.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Eh bien on se quitte avec toi en chanson, Un enfant de toi, on écoute tout de suite dans Chut, on écoute la télé, c'est parti, merci Phil, à bientôt.
Salut, à bientôt.
J'avais rendez-vous au studio, tout en soufflant sur mes doigts, je disais le petit sera un verso.
Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais. Te voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Qu'il ait ton sourire, ton regard. L'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main.
Puis on m'a téléphoné, et moi bien sûr j'ai tout quitté.
moi je ne comprenais pas que dans son cœur il y avait la vie et que dans le tien il faisait froid.
Dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé, on parlera du final de Bardot avec l'héroïne Julia de Nunes qui sera notre invitée exceptionnelle. On aura le plaisir de recevoir aussi Bérangère McNeese, une des héroïnes de la série HPI qui sera avec nous. On parlera avec Jérémy Covillo également, Stanny Copé. Bref, il y aura du beau monde lundi prochain encore.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.